Donc bonsoir à chacune et chacun pour cette rencontre donc de philosophie et théologie. Alors je ne sais pas, il faut peut-être mettre philosophie au pluriel et théologie au pluriel. C'est toujours, je sais pas, des fois le dictionnaire sur Word, il réclame quand on met philosophie et théologie au pluriel. Il dit ça n'existe pas au pluriel. Donc c'est au contraire, peut-être qu'il faudrait les mettre au pluriel. Particulièrement pour Saint-Augustin, donc moi je me réjouis de t'entendre vraiment là-dessus, c'est tout à fait passionnant, parce que je trouve que Saint-Augustin, justement, au point de vue aussi bien de la théologie et de la philosophie, il est à l'articulation entre le monde grec et le monde biblique, donc qui n'ont pas la même notion du temps, qui n'ont pas tout à fait le même rapport, je crois, à la vie en ce monde. Et puis on le voit dans ce livre 11 de Saint-Augustin, qui est un des plus connus. Eh bien, en fait, sa pensée, elle saute de la réflexion, j'allais dire, intellectuelle, à un dialogue intérieur, ensuite un dialogue avec Dieu, un débat avec d'autres, et donc c'est une pensée qui est très, très riche. Donc, on se réjouit beaucoup de t'entendre sur ce livre 11, donc, d'Augustin sur le temps.
Bonsoir, ça s'appelle la transcendance intérieure, et je crois que je vais déroger un tout petit peu à l'usage qui s'établit. Les séances précédentes, nous avons parlé 40 minutes, je crois que ce coup-ci, si tu m'y autorises, et si vous m'y autorisez, ce sera 45.
Voilà.
Depuis bientôt 7 ans, je vis un compagnonnage presque permanent avec un texte. Le livre 11 des Confessions d'Augustin. Voici pourquoi. En 2010, un concours de circonstances a conduit à la réalisation d'un spectacle de théâtre à partir de cet écrit. Ce spectacle est encore joué, après l'avoir été beaucoup et dans divers lieux. Il est encore joué, comme il le sera la semaine prochaine, par exemple mardi prochain, à Paris. Il est interprété par un comédien exceptionnel, Stanislas Roquette, et j'en ai effectué la mise en scène. Or, les principes que nous avons adoptés, l'acteur et moi-même, font qu'après les répétitions initiales, nous avons continué le travail tout au long de ces années, avec des remises en jeu et un filage intégral précédant chaque reprise, comme j'assiste à toutes les séances, afin que nous puissions les commenter ensemble, j'ai entendu au moins 200 fois l'intégralité de ce texte au cours des dernières années. Jamais une fréquentation aussi continue et répétée ne m'a lié à aucun écrit, quel qu'il soit. Ce lien étroit est lui-même un chapitre d'une histoire plus longue. Les confessions sont entrées dans ma vie de façon brutale, voilà une quarantaine d'années, après un deuil très proche, et je les ai retrouvées en diverses occasions personnelles ou publiques, jusqu'à la séance de ce soir, qui m'a fait relire l'intégralité de l'œuvre, les confessions, non seulement le livre 11, après donc des centaines de fois, mais l'ouvrage entier, dans la très importante édition bilingue critique, publié par la bibliothèque augustinienne, alors que le spectacle, lui, est joué dans la très belle et récente version de Frédéric Boyer. Pourtant, il est essentiel de le dire, je n'ai aucunement la qualification d'un spécialiste d'Augustin, en histoire, philosophie ou théologie. Simplement, cet ouvrage est venu prendre dans ma vie personnelle, de réflexion et de théâtre, une place aussi unique qu'imprévue. Et après tout, me direz-vous, un livre comme celui-ci n'est pas adressé à ses seuls spécialistes. Certains ici savent que les confessions, un des écrits les plus célèbres de la culture mondiale, s'organisent selon un agencement inattendu. L'ouvrage est composé de 13 livres, gros chapitres, aux longueurs variables. Il semble avoir été écrit peu avant l'an 400 de notre ère, alors qu'Augustin avait passé la quarantaine. Les 9 premiers de ces 13 livres déploie un récit de la vie personnelle de l'auteur jusqu'aux alentours de sa 30e année. Cet ensemble, qui forme la plus grande partie de l'œuvre, a joué un très grand rôle dans la constitution du genre littéraire que nous appelons aujourd'hui l'autobiographie. Ça en est un des tout premiers exemples, et peut-être le premier aussi net. Puis, à partir du livre 10, l'ouvrage semble changer brusquement d'axe. Il n'est plus consacré à un récit, mais à l'examen de problèmes spirituels, intellectuels ou exégétiques, envisagés pour eux-mêmes, et au sein de ces livres terminaux, le 11e occupe une place centrale et est consacré à une analyse philosophique poussée de l'essence du temps. Venons-y. Dans sa plus large part, le livre 11 se saisit de la question ainsi formulée. Qu'est-ce que le temps ? Or, l'abord de ce problème, de ce thème, est précédé par une longue introduction qui envisage un autre problème, un peu décalé, au point que leur enchaînement logique n'est pas très net. Dans cette section préalable, Augustin se préoccupe de l'acte de création divine de l'univers, se demandant comment Dieu a procédé pour faire naître le ciel et la terre, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui est. Pourquoi notre auteur fait-il ainsi précéder son étude du temps de la position de cette question distincte ? C'est, semble-t-il, à la première lecture, parce que l'acte de création de l'univers met en relation une réalité temporelle, le monde, avec une autre instance, le Créateur, qui échappe, lui, à toute temporalité. Le rapport entre le monde et son Créateur s'exprime alors comme lien entre le temps et l'éternité. Donc, la naissance de l'univers pose la question de la naissance du temps au sein d'un milieu non temporel. Un commencement a lieu dans un élément, l'éternité, qui, par essence, ignore tout commencement et toute fin. Laissons de côté pour l'instant l'analyse qu'Augustin consacre au paradoxe de cette origine. La condition temporelle est donc posée comme celle de la créature. Le temps est le mode d'existence du créé. Bon, il faudrait faire une petite nuance, il y a une petite distinction à un moment du livre, mais passons, elle ne concerne pas le point qui va nous occuper. Le mode d'existence du créé, donc, temporel, parce qu'il est assujetti au commencement, à la fin, à l'apparition et à la disparition, donc au changement, ou pour le dire dans la langue ancienne, à la génération et à la corruption. Or, dans cette confrontation entre le temps et l'éternité, le temps est marqué par un manque d'être. Il pâtit d'une contamination par le non-être, par le néant. Ceci tient à deux raisons principales. D'une part, de façon classique, pour la pensée ancienne, et en particulier la philosophie grecque, dont Augustin est un praticien, un héritier, seul ce qui est immuable est pleinement. Le caractère muable, la mutabilité, suppose une implication dans le non-être. Tout simplement, expliquent les anciens, parce que si quelque chose arrive de nouveau dans l'être, précédemment, cela n'était pas. Donc, le changement est une affectation de l'être par le non-être, une émergence depuis un non-être qui perce dans l'être. De façon symétrique, ce qui est pleinement ne peut cesser d'être non plus. Dans ce cas, évidemment, le néant l'affecte aussi, puisque l'être, en cessant d'être, y tombe. La plénitude d'être est considéré alors comme intrinsèquement immuable. C'est la thèse de Platon. Mais Augustin ajoute un développement différent pour éclairer ce lien du non-être avec le temporel. Le temps est supposé divisible en trois domaines, passé, présent et avenir. Or, dit Augustin, le passé n'est pas, puisqu'il a cessé d'être. De même, le futur n'est pas non plus, du fait qu'il n'est pas encore. Donc, au sens strict, ni le passé ni le futur ne sont. Quant au présent lui-même, son être propre est intenable. Car si le présent était pleinement, sans aucune compromission par le non-être, il ne pourrait cesser d'être présent, pour la raison qu'on vient de dire, et serait donc éternel. Ce ne serait alors pas un temps. En effet, pour être un temps, et non l'éternité, à l'instant où il est présent, le présent doit basculer dans le passé. Si le présent est un temps, c'est un temps qu'il passe. Et donc, dit Augustin, parce qu'il tend à ne pas être. De ce fait, l'être du présent est comme sous l'ombre d'un non-être qui y approche. Il n'est que dans ce mode contradictoire où, à peine posé comme être, il tend à n'être pas. Ainsi, le temps, par ses trois composantes, passé, présent, futur, est-il contaminé par un être en défaillance ou affecté par la menace ? Le temps, comme temps, est marqué d'un défaut d'être ou d'un être en péril qui touche et affecte son principe essentiel. Avec une telle approche, on est alors tenté de penser que la transcendance, le divin, la plénitude de l'être, se pose tout entier du côté de l'éternité et que le temps, condition de la créature, souffre d'un moins d'être, d'un être moindre, d'une carence ontologique. Ce serait là une position purement, mais schématiquement, platonicienne, un platonisme continué. Et en effet, la formation et le milieu philosophique d'Augustin sont baignés de cette référence à Platon et à ses successeurs. Mais une autre dimension du texte vient, me semble-t-il, enrichir ce premier schéma. Pour la faire apparaître, il nous faut suivre un peu la réflexion d'Augustin sur le temps et son essence paradoxale. Sans temps, l'essence du temps, et même son existence, lui filait entre les doigts, puisque ni passé ni futur ne sont, et que le présent n'est qu'en s'engloutissant dans l'être disparu, Augustin se raccroche à un fait qui lui paraît assumer la consistance du temps, sa réalité. Le constat que nous le mesurons sans cesse, le temps, pour parler sans difficulté apparente d'un temps plus ou moins long, d'un temps deux fois ou trois fois plus étendu qu'un autre, etc. Or, dit Augustin, on ne peut mesurer ce qui n'est pas. Donc, la mesure semble constituer la pratique consistante à partir de laquelle la réalité du temps va nous être confirmée et peut-être éclairée. Mais, tentant ainsi d'approcher le temps à partir de sa mesure, Augustin reste lié au fait que toute mensuration considère le temps dans un rapport à l'espace. Au départ, il ne s'en défend pas. Et il s'exclame, si les choses futures et passées sont, je veux savoir où elles sont. Être, c'est être quelque part. L'existence ne peut être saisie que dans un lieu. Ce lien avec l'être spatial, Augustin le retrouve dans la mesure du temps. Une célèbre thèse ancienne, formulée par Aristote, a posé que le temps est le nombre du mouvement, c'est-à-dire la mesure numérique comptée du mouvement. Le temps est le nombre du mouvement. La citation n'est pas directement dans les Confessions, mais c'est évidemment, d'une part, une référence qui parvient à Augustin de façon indirecte, et quelque chose sur lequel qu'il cite sans que ce soit nommément. ainsi considérer le temps et lui-même la mesure du déplacement, lequel a lieu, lui, dans l'espace. Mais Augustin ne tarde pas à s'aviser qu'en mesurant ainsi le temps, nous ne mesurons que des espaces parcourus ou traversés, plus ou moins étendus, sans avoir réellement accès à une mesure du temps pour lui-même. Et il cherche alors à s'extraire de cette spatialisation pour trouver ce qui fait le propre du temps et non son indexation sur la topographie. La tentative annonce ce que développera 15 siècles plus tard Bergson, par exemple dans l'essai sur les données immédiates de la conscience. Penser le temps par rapport à un déplacement quel qu'il soit, c'est, dira Bergson, le dissoudre dans une dimension spatiale et donc le manquer dans ce qu'il est pour lui-même, dans sa réalité proprement temporelle. Mais pour Bergson, cette dépendance est inscrite dans l'idée même de mesure, de comptage, ce qui n'est pas le cas d'Augustin. Pour s'en affranchir, Augustin s'intéresse à une autre sorte de mesure. Il porte son attention, donc une mesure, si vous voulez, qui permette d'avoir accès à un comptage du temps, mais qui ne soit pas une mesure spatiale, qui ne dépende d'aucune forme de spatialité. Il porte son attention sur les durées des sons, et en particulier ceux que nous émettons nous-mêmes. En prononçant une syllabe, dit Augustin, nous avons le sentiment de sa plus ou moins grande longueur. Or, ce sentiment est paradoxal. Pour le comprendre, on peut évoquer, en faisant une sorte de léger pas de côté, le cas d'une mélodie. Lorsque nous chantons une mélodie, nous ne chantons à chaque instant qu'une seule note. Or, dans cette note, prise en elle-même, la mélodie n'existe pas. La mélodie ne consiste dans aucune note isolée. Où est donc le sentiment de la mélodie lorsque nous chantons, puisque nous ne chantons qu'une note à la fois, dont la mélodie est absente? À aucun moment nous ne chantons la mélodie comme telle, mais seulement une note. Et aucune note ne contient la mélodie. Cependant, pense Augustin, en chantant, ou dira-t-il en prononçant, parce que du fait des syllabes longues, bref, c'est pour lui une considération qui communique, en chantant une note, nous portons la mémoire des notes précédentes et l'anticipation des notes qui vont venir. La mélodie n'est constituée en chaque point du temps que par ce rapport entre une note réelle, effectivement chantée, et des notes qui ne sont pas anciennes ou futures, mais se présentent à notre esprit par nos facultés de mémoire ou d'expectative. À chaque instant, la mélodie n'existe donc pas comme objet, mais comme division intérieure à notre conscience, entre souvenir et attente, comme tension interne en chaque point de notre âme, ou comme ce qu'Augustin nomme distensio, tension ou distension. Les traducteurs, certains traduisent classiquement distension, Boyer traduit plutôt tension. Tension ou distension intérieure à notre esprit, animus. Distensio animi. Telle est l'essence du temps selon Augustin. Augustin saisit par là l'essence du temps comme réalité interne, donnée spirituelle, et aucunement comme fait objectif, externe à notre conscience. C'est un basculement considérable, dont les effets seront énormes dans l'histoire de la pensée. On est surpris de voir à quel point cette mutation, qui s'annonce timidement chez d'autres auteurs, mais se produit de façon résolue chez Augustin, aura des effets profonds et irréversibles après lui, jusqu'à Kant et Bergson, pour ne citer qu'eux. Mais on pourrait citer aussi Husserl, Einstein, dans un certain sens, et plein d'autres. Ces auteurs, comme beaucoup d'autres qui les ont précédés ou suivis, sont des lecteurs attentifs ou passionnés d'Augustin, et précisément des confessions, et plus précisément encore de ce livre 11 auquel nous nous intéressons ici et dans lequel cet énorme changement intellectuel est comme condensé, accompli dans sa pureté. Ainsi, pour prendre un exemple, Kant, dans la critique de la raison pure, oppose-t-il le temps et l'espace comme ce qu'il appelle deux formules célèbres, formes a priori de la sensibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne définit pas l'espace et le temps comme données objectives, mais comme forme de l'expérience du sujet. Mais l'espace est posé alors comme forme du sens externe. L'espace est la modalité dans laquelle nous expérimentons ce qui est extérieur, comme extérieur. Extérieur, c'est-à-dire spatial. Tout ce qui nous apparaît comme externe se donne dans un espace. Et tout ce qui est spatial nous est livré dans le mode de l'extériorité. Extériorité et spatialité se recouvrent au point d'être comme équivalentes. À l'opposé, le temps est conçu, toujours par Kant, comme forme a priori du sens interne. Ce que nous percevons comme interne nous est donné comme temporel. Le temporel est le mode de l'intériorité. Nous ne saisissons notre intériorité, si nous la distinguons de l'extérieur, que comme un processus se déployant dans l'élément du temps. Dans cette approche, le temps est notre sentiment de nous-mêmes, en tant qu'intérieur à notre esprit. Le temps est la sensibilité que nous avons de nous. Je ne prétends pas que la thèse soit indiscutable ou totalement avérée, mais seulement qu'elle a marqué profondément l'évolution de la pensée et que l'origine de cet énorme développement se trouve dans Augustin et précisément dans le segment de livre que nous fréquentons ce soir. Par parenthèse, et pour respirer un instant, je voudrais dire que c'est ce point de la pensée d'Augustin dans le livre 11, qui, pour la confection de notre spectacle, nous a passionnés, Stanislas Roquette et moi-même, comme problème de théâtre, problème scénique. Car nous avions à exprimer sur scène cette difficulté croissante dans le texte, cette impuissance progressivement manifestée par Augustin à saisir la réalité du temps depuis des lieux. Or, au théâtre, le spatial est le scénique. La scène est l'existence théâtrale de l'espace, qu'on appelle souvent espace scénique, une sorte de métaphore de l'espace en général. Le volume scénique, dans sa tridimensionnalité, cubique ou sphérique, y est traité comme figure de la spatialité, de la condition spatiale des humains. Du coup, nous nous trouvions devant le défi d'avoir à présenter en scène l'échec de la quête spatiale d'Augustin. Sa plongée dans l'intériorité, le non-spatial, la temporalité pure. Mais sortir de l'espace en scène, c'est sortir de scène. Ce qui reste déconseillé pour l'acteur, surtout au moment crucial du spectacle, quand la solution du problème s'annonce dans son acuité. Figurer l'intériorité sans sortir de scène, tel est le défi qui nous a beaucoup captivés. En outre, cette ambivalence spatio-temporelle du théâtre s'engage dans la condition de l'acteur lui-même. Le spatial, pour lui, c'est d'abord son corps, qui est sa première scène, l'espacement de son discours, de son texte, de son existence dans le rôle et le jeu. Il y met en jeu son âme, sa réalité spirituelle, son intelligence, et donc son intériorité, sa temporalité intérieure. Manifester l'essence pure du temps au théâtre ne demanderait donc pas seulement dans cette logique de sortir de scène, mais aussi d'abandonner le corps. Injonction doublement périlleuse. Y avons-nous convenablement répondu? C'est ce que vous pourriez nous dire si vous souhaitiez venir voir notre spectacle. Fermons la parenthèse théâtrale. Pour Augustin, disais-je, l'essence du temps ne peut être saisie que comme tension ou distension de l'âme, écartement temporel de l'instant dans son vécu propre, et donc événement se produisant tout entier dans le mode de l'intériorité, dans le champ psychique ou spirituel intérieur à l'esprit. Ici se noue le problème annoncé plus haut, qui concerne plus spécifiquement la théologie, où je vais me risquer, et donc notre soirée dans son intérêt situé entre philosophie et théologie. Car l'intériorité, dans la pensée d'Augustin, et précisément dans les confessions, est une affaire complexe. Au livre 3 de l'ouvrage figure une formule devenue d'une célébrité presque universelle, au moins pour les philosophes et théologiens. Je cite la phrase en entier, même si un membre en a été surtout retenu. « Tu eras autem interior intimo meo et superior summo meo. » Ce qu'on peut traduire par « Mais tu étais plus interne que le dedans de moi et plus élevé que le sommet de moi. » La tradition a extrait et commenté sans fin la formule en effet stupéfiante « interior intimo meo », plus au-dedans que le dedans de moi, plus interne que l'intime. S'affirme ici la thèse selon laquelle la transcendance, c'est bien elle, tue. Le divin, Dieu lui-même, sont plus intérieurs à moi que moi. La transcendance est posée comme le plus intérieur de l'intérieur, le dedans du dedans, le cœur du cœur. Évidemment, cette formule ne trouve son sens complet qu'avec l'autre partie qui la contrebalance, le dessus du dessus. Mais restons-en, pour ce qui nous occupe, à l'intérieur de l'intérieur. Cette expression induit que pour Augustin, on n'accède pas à la transcendance seulement par un surpassement, un surmontement de soi, mais aussi par un approfondissement, un creusement, une plongée au-dedans. Dans cette plongée ne se donne pas ultimement un soi dans le soi, un soi-même dans le soi-même, mais il s'y livre quelque chose qui est plus intérieur que le moi. Le moi n'est pas le dernier mot de l'intériorité, ce à quoi des psychanalystes trouveront un écho. La transcendance, l'excès, le dépassement sont aussi internes. Ce qui conduit à penser que si le temps est le mode propre de l'intériorité, comme Kant le pensera après Augustin et à partir de lui, le temps ouvre aussi un certain accès à la transcendance. Il y a une transcendance du temps, dans le temps ou par le temps, une transcendance intérieure. Il faut alors complexifier la position initiale que nous avions cru pouvoir lire, selon laquelle la transcendance se tient tout entière dans l'élément de l'éternité. Pour Augustin, l'éternité est transcendante, bien sûr. Mais le temps, dans sa condition de défaut d'être, ménage aussi une voie vers le divin. Le manque d'être ouvre aussi à Dieu. Le divin, Dieu lui-même, se trouve, à tous les sens du mot, trouve, au fond d'une carence d'être, il creuse le manque d'être jusqu'à en dégager le fond sans fond. Comment peut se comprendre cette articulation étrange entre le temps et l'éternité, qui ne se contente donc plus de poser le temps comme chute hors de l'éternel, ce qu'il est assurément pour Augustin, mais en fait, à rebours du modèle platonicien, une voie de trouage au terme sans terme duquel l'éternité peut s'inscrire. Je propose, pour l'éclairer, deux hypothèses dont je dois dire qu'elles ne paraissent pas littéralement dans le texte augustinien, mais constituent plutôt la lecture ou la traversée que j'en suggère comme un augustinisme personnel, pas tout à fait fondé en rigueur historienne, mais où je vous livre mon accès intime ou, pour tout dire, dans ce domaine, ma foi. La première de ces deux suggestions consiste à interpréter dans ce contexte la formule biblique selon laquelle l'homme a été fait par Dieu à son image. Il faudrait dire l'homme et la femme. Car vous vous souvenez que la formule, Genèse 1, 21, 27, 22, 27, est immédiatement suivie de son complément sidérant. Homme et femme, il les a faits. Dieu étant ainsi engagé lui-même dans cette ambivalence. Avec cette affirmation stupéfiante, ce n'est pas Dieu qui doit être conçu par ressemblance avec l'humain, dans un anthropomorphisme qu'on n'a jamais fini de réduire, où Dieu paraît comme figurine humaine, réduction contre laquelle Augustin n'a cessé de se battre et de se débattre, mais au contraire, l'humain, c'est l'humain qui est à penser dans son excès par rapport à lui-même, sa semblance divine, sa transcendance, sa transhumanité. Terme que j'emploie, vous le devinez peut-être, dans un sens très différent de celui par lequel on le voit courir ici et là, et surtout ces derniers temps. Dans l'hypothèse que je vous soumets, ce qu'Augustin appellerait alors à penser serait cette transcendance, cette image de Dieu dans l'humain, comme intériorité. C'est par son dedans infini que l'humain aussi se transcende. Pas seulement, sans aucun doute. Et c'est là que le balancement de la formule augustinienne prend sa force. La transcendance convoque l'humain à se dépasser vers le haut, à s'élever au-dessus de soi. Mais elle s'inscrit aussi en lui comme creusement, comme forage. Dans cette veine, si j'ose dire, on peut coupler les deux formules. L'homme, image de Dieu, et Dieu plus intérieur à moi que moi, et dire qu'en partie au moins, si l'homme est à l'image du divin, c'est en tant qu'intériorité. L'image de Dieu dans l'homme, c'est l'intérieur. Image non spatiale, image sans image, donc, purement interne, image noire. Dieu a fait l'homme à son image en tant qu'il l'a fait comme homme intérieur. Ce que l'humain trouve au plus profond de soi, plus profond en soi que le soi lui-même, c'est la profondeur, l'intériorité, le puits dans l'être. Les humains forment à la surface du monde des milliards de puits qui creusent l'être vers l'infini. Telle est ma première hypothèse. La seconde vient la compléter, car on peut se demander par quelle modalité concrète Dieu vient se situer ainsi au plus profond de moi, plus intérieur à moi, que l'intime de moi-même. Il ne suffit pas de le dire, ni de se plonger en soi dans un complaisant vertige pour trouver le divin au fond du fond, au fond sans fond de l'introspection. Il ne s'agit aucunement de cela. L'introspection, comme son nom l'indique, est un regard, et tout regard est vers l'espace. Il ne s'agit pas de trouver ici, et encore moins de contempler un espace intérieur. L'intérieur augustinien n'est pas un espace, mais une trouée hors de l'espace, un non-espace qui ne se regarde pas. À la rigueur, on y plonge, mais il ne s'offre pas à être contemplé. Pour mieux entendre cette intériorité, au moins telle que je vous la chante, il faut alors faire une halte autour d'un aspect des confessions que j'ai ici soigneusement laissé de côté, jusqu'en ce point au moins. Certains d'entre vous auront pu s'étonner que je n'ai encore rien dit de l'extraordinaire dispositif littéraire dans lequel se présente l'ouvrage. Je l'ai abordé comme un traité qui discute une question après l'autre, ce qu'il est en effet. Mais il ne s'offre pas ainsi à la lecture. Les confessions, de la première ligne à la dernière, et donc les livres 11, comme tous les autres, sont une adresse. Tout est écrit à la deuxième personne. Tout s'y déploie dans l'interpellation d'un interlocuteur désigné par le pronom « tu ». Le procédé n'est pas sans précédent, ni sans postérité. Jeune adolescent, je me souviens d'avoir été fasciné par la parution du roman « La modification » de Michel Butor, qui présentait l'invention d'être écrit tout entier à la deuxième personne du pluriel, le personnage principal étant pointé par le pronom « vous ». C'était en 1957. De même, le roman « Un homme qui dort » de Georges Perec est-il écrit intégralement dans l'invocation d'un protagoniste tutoyé. Eh bien, on peut dire que ces innovations littéraires, considérables et d'autres qui y sont apparentées, ont pour antécédent un livre écrit à la fin de notre IVe siècle. D'ailleurs, parmi les héritiers des confessions, cette manière a connu des avatars célèbres, comme l'envoi inaugural des Essais de Montaigne, ou celui des Fleurs du Mal, où le lecteur, interpellé fraternellement par un « tu », vient prendre, discrètement, mais directement, la place occupée chez Augustin par Dieu. Cependant, le tutoiement augustinien a aussi des ascendants directs. En particulier, je suis sûr que tu y penses, le livre biblique des psaumes. La plupart des psaumes sont écrits à la deuxième personne du singulier et, comme le feront les confessions, dans une adresse directe à la transcendance. Le lien est même plus étroit et plus intime, car les confessions, au fil de leurs textes, sont tissées, tramées d'innombrables citations, pour la plus grande part bibliques, si abondantes que pour s'y référer, la lecture s'interromprait presque à chaque ligne. Or, ces citations, dans leur immense majorité, sont empruntées au livre des psaumes, au point qu'un commentateur autorisé a pu évoquer les confessions comme une sorte de grand psaume de quelques centaines de pages. La proposition est suggestive, tant la parenté se montre forte, par le ton, l'invocation permanente, l'alternance de louanges et de craintes, le style poétique qui n'exclut pas les écharpes de pensée, etc. Tout ceci n'exprime que ce fait très simple, mais pourtant ébouriffant, enfin pour moi en tout cas, que les confessions se présentent comme une grande, longue et sublime prière. Or, s'il est vrai, comme c'est souvent affirmé, qu'Augustin y a inventé, ou en tout cas donné sa forme durable au genre de l'autobiographie, cela signifie que notre livre occupe dans l'histoire des lettres et de la pensée une place nodale pour la découverte, le percement, l'excavation de l'intériorité. L'intérieur de l'âme n'est pas un donné. Certaines civilisations semblent l'effleurer à peine. La nôtre s'est en grande partie appliquée à lui conférer son épaisseur, à la constituer. Et d'ailleurs, nombre d'historiens affirment que l'individualité elle-même n'apparaît pas comme un acquis initial de l'histoire humaine, mais que le statut de l'individu, au moins dans le sens que nous lui donnons, se forme historiquement, de façon de plus en plus dense, à mesure qu'on avance dans les temps modernes. Si c'est vrai, l'intériorité individuelle ne cesse de s'élaborer. Le christianisme d'une part, la réforme de l'autre, assument un rôle éminent dans sa constitution. Et Augustin, par ce livre, y prend une place antécédente, mais décisive. Dans les confessions, le sujet humain se construit de façon innovante, comme discours et comme monde intérieur. On peut lire d'un bout à l'autre l'œuvre d'Aristote en y trouvant de nombreux humains et souvent l'âme humaine, mais celle-ci reste décrite à la manière d'une chose, comme un organe considéré du dehors. De même, dans les épopées fondatrices, en Grèce ou ailleurs, paraissent des héros qui sont des silhouettes agissantes, plus que des subjectivités. La dramatisation théâtrale ultérieure active fortement la subjectivation. Ce qui différencie l'Ajax de Sophocle de son ancêtre homérique, c'est sa teneur subjective. Mais elle reste peu de choses au regard de l'approfondissement, du creusement, de l'intériorisation auquel procède Augustin dans notre ouvrage. Au long de leurs centaines de pages, immenses monologues dramatisés, les confessions déploient le débat, le sentiment, le paysage et l'histoire d'une vie intérieure, probablement sans précédent. La spiritualité augustinienne, dans ce livre, l'image humaine de Dieu qu'elle expose, fouille le trou d'une intériorité jusqu'alors inouïe. Or, cette intériorité se délivre et se livre comme appel. Double appel. Envoi lancé par le texte à son interlocuteur et interpellation qu'il reçoit, qu'il dit recevoir, et à laquelle il entend répondre. Le « je » des confessions, le pronom « je », si fort, si sensible, actif et passif à la fois, ne se forme dans le langage que par son interlocution avec le « tu » qu'il instaure et le commande. Les premiers mots de l'ouvrage, empruntés à un psaume, sont « tu es grand, Seigneur, et bien digne de louange ». La première personne grammaticale ne surgira que 10 lignes plus loin. Tout au bout du livre, la dernière phrase s'entame par qu'on te demande à toi, que l'on recherche en toi, que l'on frappe chez toi. La deuxième personne du dialogue est la première et la dernière du texte, qui le tient de part en part, le fonde et le porte. Et c'est vrai du livre 11 comme des autres. Voici l'hypothèse. L'impression de lecteur saisi que je voudrais communiquer, qui n'est pas spécialement originale, mais qui se trouve être la mienne, le « je » des confessions naît du « tu » auquel il s'ouvre. L'intériorité se constitue comme adresse. Le « tu » fait le « je ». Les confessions ne présentent pas une exploration intérieure qui s'exposerait ensuite devant Dieu. Elle donne forme à une intériorité toute creusée, forée, ouverte et induite par lui, ou il faudrait dire justement par toi, puisque selon Buber, suivi par Gabriel Marcel, par Lévinas et quelques autres, dire lui, c'est déjà le perdre en un certain sens. Dieu qui appelle. Le fond de l'intime, le socle de l'humain ouvert au profond de son abîme interne, sont extérieurs à lui. Au fond du même se tient cet autre qui ne peut être nommé que dans l'invocation. Ces deux hypothèses, l'humain image de Dieu comme intériorité et l'intériorité comme appel, comme adresse, pourraient conduire à comprendre la structure du livre 11 dont je m'étonnais au début de notre lecture, à interpréter pourquoi le livre, consacré à l'essence du temps, s'ouvre par un développement sur la question bien distincte de la création. Reprenons notre fil. Le plus interne à l'humain est hors de lui. Si Dieu a fait l'homme à son image, c'est au sens où ce que l'homme a de plus intime, de plus propre, lui est impropre, donné depuis dehors. Le plus intime est hors de soi. On peut penser alors que ce dedans, ce cœur, porté au plus profond comme un dépôt externe, est exactement ce qui exprime la condition de créature. Le fait que l'être ne trouve pas sa raison en lui-même, mais dans un dehors, qui le fonde. Le geste marqué au fond de tout, comme trace et dépôt externe, peut être compris comme la création elle-même. C'est pourquoi le temps, marque du créé comme créé, être moins qu'être, tombé hors de l'éternité, c'est pourquoi le temps, dis-je, ouvre pour l'humain sa voie d'accès à la transcendance. Point interne par lequel la créature remonte, mais depuis le dépôt que laisse en elle, comme son socle, la création qui la projette. C'est pourquoi aussi, sans doute, la question de l'identité est si mal posée. Au fond, le plus intime de l'être même, se trouve l'altérité la plus radicale. L'altérité qui nous instaure est le geste transcendant qui nous pose comme nous-mêmes et dans lequel toute identité se trouve construite sur une extériorité infini. Le livre 9 des confessions contient un épisode célèbre connu comme la contemplation d'Ostie ou la vision d'Ostie du nom de la ville portuaire italienne. Augustin y relate un entretien avec sa mère, Monique, laquelle mourra peu après. Les deux personnages, Augustin et sa mère, se tiennent debout au bord d'une fenêtre, devant le paysage des Bouches du Tibre, côte à côte, parlant, je cite, « parlant ensemble dans un tête-à-tête très doux ». Durant cet entretien, une élévation mystique les soulève, au cours de laquelle, écrit Augustin, je cite, « nous élevant d'un cœur plus ardent vers l'être même, nous avons traversé, degré par degré, tous les êtres corporels et le ciel lui-même, d'où le soleil, la lune et les étoiles jettent leur lumière sur la terre. Cette ascension graduée, des étangs les plus corporels jusqu'à la source lumineuse supérieure, avait été posée conceptuellement par Platon et reprise par les platoniciens qu'Augustin fréquente assidûment. Mais il la rapporte ici et la reporte comme expérience, comme route, marque distinctive de tout récit mystique. Alors, relate Augustin, il se produit ceci. Je cite, « Et nous montions encore au-dedans de nous-mêmes, en fixant notre pensée, notre dialogue, notre admiration sur tes œuvres, et nous sommes arrivés à nos âmes. » Vous avez entendu la formule. « Et nous montions encore au-dedans de nous-mêmes », laquelle se trouve dans cette vénérable traduction française sonnée en un alexandrin qui ne gâte rien à mes oreilles. « Monter au-dedans de soi », comme par jonction des deux formules symétriques citées plus haut, « Dieu plus intérieur que le dedans » et « plus élevé que le sommet ». Monter au-dedans de soi, c'est cheminer dans l'intériorité vers le plus transcendant. Voici l'hypothèse, au sens strict, la supposition que, selon Augustin, lui-même et sa mère, à laquelle lui-même et sa mère parviennent alors. Je cite. « Si, en quelqu'un, faisait silence le tumulte de la chair. Silence les images de la terre et des eaux et de l'air. Silence même les cieux. Et si l'âme aussi en soi faisait silence et se dépassait en ne pensant plus à soi, silence les songes et les visions de l'imagination. Interrompons un instant, comme par un suspendu disque, ce troublant poème où se trouve reprise l'élévation mystique depuis la terre vers le plus haut, les cieux, et le plus spirituel, les âmes, pour y glisser deux remarques. D'une part, Augustin décrit là un suspens de toutes les perceptions du monde, qui annonce et anticipe, mais dans un mode mystique, ce que sera le doute cartésien, et après lui, la suspension, l'époque de Husserl et de la phénoménologie, comme une cessation provisoire d'affectation par la réalité des choses. Mais d'autre part, cette halte en tout ce qui se montre, l'image, cieux, songes et visions, n'est pas décrite comme une obscurité, une cécité produite par la clôture du regard, mais comme silence. Par ce mot plusieurs fois répété, les choses ne disparaissent pas, mais se taisent. Écoutons alors la suite. Si toute langue et tout signe et tout ce qui passe en se produisant faisait silence en quelqu'un absolument, vous avez ainsi entendu que le silence qui s'établit n'affecte pas seulement les choses du bas domaine terrestre, les cieux aussi font silence. Et même l'âme, qui se dépasse et ne pense plus à soi. Tout l'univers fait silence dans l'âme, à cet instant supposé. On s'attendrait alors, et c'est en un sens ce qui se produit, à une affirmation, une sorte d'extase de l'intériorité. Or, c'est le moment qu'Augustin choisit pour faire dire à toutes les choses, si on peut les entendre, toutes les choses disent, ce n'est pas nous qui nous sommes faites, mais celui-là qui nous a faites demeure à jamais. Ce qui se produit donc, c'est qu'au cœur de ce silence, on peut bien entendre quelque chose, et même toutes les choses, qui ont cessé leur tumulte mais qui parlent. Ce n'est pas le langage des choses qui s'est éteint, mais leur bruit. Leur langage, dégagé de ce bruit, fait entendre une parole plus intime, silencieuse, pour exprimer, avouer, annoncer qu'elles n'ont pas leur raison en elles-mêmes, mais qu'elles résultent d'un geste venu du dehors. Cette extériorité demeure au fond d'elle, à jamais, c'est-à-dire de façon éternelle. Ainsi, lorsque toutes les choses et tous les êtres créés font silence, se dépouillent de toutes leurs images, figures et signes, ce qui se laisse voir ou entendre, c'est leur condition de créature. Au fond de l'être, quand s'éteint le tumulte des choses, ce qui reste, c'est la prémisse inaugurale, la fondation externe. On comprend alors pourquoi Augustin a ouvert son livre sur le temps en désirant fouiller l'énigme par laquelle le temps s'origine dans l'intemporel et prend naissance dans ce qui ignore toute naissance et tout commencement. Car loin d'être seulement une chute, ce qu'il est sans doute pour Augustin, le temps devient aussi le mode d'une procédure ascensionnelle qui permet de remonter jusqu'au présent de l'éternité. Mais il faut y remonter par le canal interne, par en dedans. J'y entends ce qu'Augustin induit de l'humain et de son intimité la plus profonde. Au fond de l'humain, son dehors, au fond du jeu, toi qui m'appelles, au point le plus instable du temps, dans sa distension intime, la transcendance intérieure. Voilà. À vous les amis, hein, maintenant. Hein. On ne peut pas croire que...
Vous avez parlé de théâtre, alors j'ai pensé à l'unité de temps, à l'unité de lieu, mais l'unité d'action, ça n'existe pas chez un Augustin.
Oh, je ne sais pas, je ne le dirai pas comme ça. Je le dirai pas comme ça, j'en sais rien.
Non, mais ça n'a pas sa place dans le
propos. Ce moment de la réflexion est un moment sur le temps. Alors, je crois que ça, ce que vous dites dépend beaucoup des interprétations qu'on lui donne. Hein. Je lis en ce moment Bergson, et Bergson, assurément, dans Bergson, ce qui fonde quelque chose comme la durée, c'est quelque chose comme un acte. Il le dit, je le lisais cet après-midi. Et justement, c'est en tant qu'acte qu'elle échappe à toute mesure. Il dit les choses sont divisibles. Il dit le temps n'est pas une chose, en quelque sorte. Hein. Je l'ai là, la citation, je l'ai apportée. J'ai même photocopié parce que je sentais qu'on en aurait besoin. Le temps n'est pas une chose, en quelque sorte. Le temps, c'est la durée, au sens où qu'il met en œuvre, qui est justement cette manière par laquelle le temps échappe à la réalité spatiale. Le temps n'est pas une chose, c'est un acte. Les choses se divisent et un acte ne se divise pas, dit-il. Donc, du côté de Bergson, qui à certains moments donnés prend la suite du livre 11 des Confessions de façon incroyablement manifeste, hein, c'est d'un acte qu'il s'agit. Du côté de Lévinas, au contraire, c'est un non-acte pur, c'est une passivité. C'est quelque chose qui doit échapper à la dimension de l'acte. Je ne sais pas si tu le souscris, Alain, mais c'est quelque chose qui est un passé absolu, plus passé que tout passé, et à ce titre, radicalement passif. Donc je pense que ce sont des déploiements, quoi, à partir de cette secousse qui a été produite dans la pensée par le livre 11, des Confessions. Je crois que ce sont des interprétations qui pourraient être différentes. Je ne saurais vous dire là quelle est la mienne, parce que je n'en ai pas sur ce point.
Vous pourriez en avoir, parce que vous êtes un homme de théâtre.
Mmh. Moi, j'ai trouvé très sympa qu'effectivement, commentant les confessions, tu prennes aussi, finalement, le modèle de la confession en parlant au jeu, finalement, au lieu de faire une leçon de philosophie, ce que tu saurais faire. Hein. Sur saint Augustin, sur le temps, tu l'inscrives aussi dans une confession, si je puis dire, c'est-à-dire dans une narration de ce qu'a produit ce texte sur toi. Et ça, je trouve ça, je dirais, particulièrement passionnant finalement, je dirais même contagieux dans un sens, de se laisser bousculer par, par ce texte, par cette réflexion ou par ces, ces rencontres en général. Mais sinon, j'ai l'impression que dans la Bible en particulier, donc que médite sans arrêt saint Augustin, puisque je disais qu'il était à l'articulation entre la philosophie grecque et la Bible, dans la Bible, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux temps. Il y a le temps du temps pour mourir, finalement, qui est le temps de l'homme, de notre histoire. On sait bien qu'on a une naissance et une mort, et qu'on est dans cet entre-deux. Et puis le temps de l'éternité, qui est quelque chose qui est donné par grâce, finalement, comme tu le disais, et qui fait que, dans un certain sens, on est déjà hors du temps. C'est ce que dit sans arrêt Jésus, l'heure vient et elle est déjà là, donc on est dans ce glissement, dans cette ambiguïté, où on est la genèse, la création, notre création est à vivre en même temps chaque jour. En même temps, la finalité de notre être, l'eschatologie, elle est aussi participante à notre quotidien, puisqu'on nous dit le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ou est entre vous. Donc on est à la fois à la genèse, à la fois à l'eschatologie, par ce temps de Dieu, finalement, cette éternité de Dieu. Mais alors de quel temps parle saint Augustin, finalement? Est-ce qu'il est dans une sorte de temps cyclique des Grecs, où on... Voilà, on est un morceau de Dieu qui est tombé, et on le voit dans ce texte de temps en temps. Il dit, bon, on va retourner dans l'éternité de Dieu, se dissoudre en Dieu, dans le feu de son amour. Donc ça, ce serait assez grec. En même temps, on sent bien l'individu personnel, le temps de l'homme, cette participation à l'éternité de Dieu. Enfin, je ne sais pas très bien dans quel monde il se situe là-dedans. Comment il conjugue ce temps cyclique des Grecs, ce double temps biblique, le temps de l'histoire et puis le temps éternel de Dieu. Je ne sais pas très bien comment ça se conjugue. J'ai du mal à discerner les fils, en fait, là-dedans.
Si quelqu'un a des lumières, hein, n'hésite pas à nous les apporter. Moi, personnellement, j'ai l'impression que, bon, je n'ai jamais eu l'impression en lisant ça, de, en le lisant, en l'entendant, en relisant sans cesse, d'un temps cyclique. Jamais. Probablement il y a des traces, il y a des traces, ouais. Il est imprégné de philosophie grecque, donc il y a certainement des traces au sens que tu dis, mais il y a au contraire dans ce livre des, et en particulier un, mais des prodigieux événements qui n'ont rien de cyclique. Le fait d'inventer l'autobiographie, le fait de se décider un beau jour comme ça, est quand même très inattendu dans l'ensemble de la production d'Augustin, antérieure et postérieure, à raconter sa vie. Et sa vie jusqu'à ce moment où se conjoignent la mort de sa mère et la conversion définitive, disons. Parce que la conversion est un long processus, si vous m'autorisez, tel que je la lis en tout cas, c'est un très long processus qui dure plus d'une dizaine d'années, si on en prend l'impulsion initiale, et probablement un moment de nouage comme ça. Donc ce récit, c'est le fait de saisir des événements, et en effet il y en a plein dans les confessions. Dans les 9 premiers livres, il y a une série d'événements qui sont donnés comme des événements avec, pour certains, quelque chose d'absolument on ne peut pas être écrasé, dont l'événementialité ne peut pas être dissoute. Mais ce qui est vrai, c'est que pour lui, en tout cas spéculativement, moi je suis loin de souscrire à tout ce que j'ai tenté d'exposer là, mais c'est vrai que pour lui, dans l'instant de cet événement, de l'événement, dans ce qu'il a de plus aigu, dans son acuité la plus extrême, bon, alors se perce quelque chose qui ouvre à une donnée qui n'est plus exactement, je crois, temporelle, et qui relève d'une sorte d'infinie présence, c'est-à-dire présence du présent, c'est-à-dire présentialité, il faudrait dire le caractère présent de ce qui est présent, voilà, et qui se conjoint à un point d'éternité, ça, il n'y a pas de doute. Donc il y a une percée. Alors, quant à la question de savoir qu'est-ce que cela doit au temps biblique et qu'est-ce que cela doit aux Grecs. Bon, alors ça, ça pose déjà un problème historique qui est passionnant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il avait en main, Augustin, des Grecs et de la Bible, et même de la Bible. Hein, qu'est-ce qu'ils avaient en main, ces gens-là, comme texte effectif. On sait que sur les Grecs, c'était extrêmement partiel, que certains textes parvenaient en grec, mais d'autres... Ils ne lisaient probablement pas le grec, semble-t-il. D'après ce que j'ai lu, hein, je n'ai pas la moindre idée, mais en tout cas, que des textes lui parvenaient en latin, et peut-être dans d'autres langues. Enfin, je crois avoir lu qu'il ne lisait pas, en tout cas, couramment le grec, si j'ai bien compris. Peut-être je me trompe, peut-être c'est un souvenir qui se brouille, je ne sais pas. Et d'une part, qu'est-ce qui lui parvenait? Les textes, par exemple, Aristote, il n'en a presque pas des textes d'Aristote, hein, il en a très très peu. Les textes de Platon, de façon partielle, beaucoup de ce qu'on attribue à un platonisme lui vient par les néoplatoniciens. Il est imprégné des néoplatoniciens. Et qu'est-ce qu'il lit parmi les néoplatoniciens? Il lit, semble-t-il, certains textes particuliers de Plotin, d'autres de Porphyre, mais certainement pas les corpus tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et sur la Bible, ça tu le sais mieux que moi, mais j'ai l'impression que dans la formation de ce que... La formation, pas seulement l'établissement du canon, mais aussi la constitution de cet univers mental que nous appelons la Bible, elle est complètement en cours encore à l'époque, tu vois. C'est quelque chose qui est en voie de formation. Donc j'ai l'impression que... Moi, j'ai tendance à me poser la question plutôt de la façon suivante. Qu'est-ce que Augustin a transformé dans notre réception des Grecs et dans notre réception de la Bible, tu vois? C'est-à-dire, c'est pas seulement comment il s'est situé par rapport à quelque chose que nous identifions comme étant les Grecs et la Bible, mais comment il en a reçu des choses et comment il les a...
Il a tissé.
Oui, profondément.
Fécondé mutuellement.
Oui, je crois modifié. Oui, François. Mais tu ne m'interromps pas du tout, vas-y, je t'en prie.
D'abord, merci beaucoup, parce que vraiment, c'est tout à fait remarquable. Je suis tout à fait de l'avis du pasteur. C'est le fait que tu l'aies pris en intériorité. Je me demande, mon intervention, c'était plutôt pour te pousser peut-être à aller plus loin, si je suis désolé. Et donc, de dire, est-ce que, finalement, tout ce que tu nous as exposé sur le temps, justement comme intimité, donc comme rapport à Dieu, ne doit pas nous pousser jusqu'à penser à un temps qui puisse simplement créer, mais un temps créateur. Alors, donc finalement, c'est-à-dire y compris créateur de quoi? Créateur d'éternité. C'est un vieux problème philosophique qu'on trouve chez Descartes, comment ça se fait que des vérités éternelles puissent apparaître dans le temps. Là, on ne sait plus comment le temps peut apparaître dans l'éternité, mais comment des choses éternelles peuvent apparaître dans le temps. On retourne la chose. Dans l'histoire du christianisme, il y a quand même, évidemment, Pâques. Pâques, c'est quand même un élément qui, dans le temps, fait apparaître une transformation éternelle à l'intérieur même du temps. C'est-à-dire, théoriquement, la vie après Pâques n'est plus la même qu'avant. Alors, je me demande si à ce moment-là, pour arriver donc, à pousser ton chemin jusqu'à la pensée d'un temps possiblement créateur, il ne faut pas quand même introduire un élément qui là manque, qui est celui de l'humanité comme telle. C'est-à-dire, ça ne peut pas se passer quand même uniquement entre l'individu et Dieu. Il y a quand même un élément là, un élément qui est quand même évidemment problématique. Et qu'on rencontre immédiatement sur la question du temps, puisqu'il y a quand même la question, pourquoi ce temps, s'il est ainsi structuré, comment est-il partageable? On voit bien, même dans l'expérience élémentaire des syllabes, qu'est-ce qui permet de dire qu'une syllabe est double? Il suffit que les deux personnes en même temps qui prononcent, et pendant qu'un dit une syllabe, l'autre en dit deux. On a une idée. Encore faut-il pouvoir avoir partagé quelque chose.
Augustin, il serait pas d'accord avec ça, hein, ce point-là précis. Ça, c'est le point qu'on détaille beaucoup dans le spectacle. Il serait pas d'accord parce que il faudrait pour ça que la conscience puisse être elle-même du début à la fin, de la longue ou des deux brèves. Il en parle sans arrêt, si tu veux. Donc, pour lui, ça ne change pas la question de l'instantanéité, quoi. Mais
je veux dire, il faut quand même que le temps soit partageable, quand même, oui, bien sûr. Semble-t-il.
Mais bien sûr, bien sûr.
Sinon,
mais bien sûr.
On ne sait plus trop de... Et donc, la question intime, intérieure et extérieure est quand même entièrement déplacée par cette question-là. C'est-à-dire, peut-on tenir que le reste de l'humanité, mon extérieur... Toi-même, tu as posé que l'extérieur, c'est l'espace. Mais on ne peut pas traiter le reste de l'humanité comme mon espace. Et en tous les cas, dans une optique chrétienne, ça ne marche pas comme ça. Donc là, il y a quand même, à mon avis, une difficulté. C'est-à-dire, si on veut passer jusque du temps créé au temps créateur dans la dynamique que tu indiques, il faut, à mon avis, introduire.
Mais bien sûr. Non, mais tu as absolument raison. Parce que tu as absolument raison. Alors, il y a un parcours dans ces séances. Hein, le point sur lequel tu termines, c'est le point auquel nous étions à la fin de notre séance sur Lévinas. Chaque fois que je dis Lévinas, je me tourne vers Alain. Mais bon, parce que on a consacré deux longues séances, et surtout la deuxième qui était quand même fortement marquée par la lecture de Lévinas sur le point exact que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que quel est le statut de... Quel est le statut de la rencontre, le statut de la réception, de l'affectation par l'autre, par l'altérité. Donc ça, c'est absolument certain. Je dirais simplement ceci, moi. J'ai une tendance, tu sais, on va consacrer la prochaine séance à l'histoire. J'ai une tendance, je m'en rends compte, très profondément historiciste, enfin, dans mon rapport des choses, c'est certain. Et en l'occurrence, ça ne s'est pas vu là spécialement ce soir, mais... En l'occurrence, je crois que le collectif, l'humain, l'humanité dans son caractère collectif, a été le statut de ce caractère collectif, le fait qu'on est les uns avec les autres, qu'il y a du monde, quoi, au sens voilà, a été radicalement bouleversé entre ce que ça pouvait être. À la fin de l'époque romaine, est-ce que c'est au début de la Renaissance, et que ce bouleversement, c'est comme si on était passé dans le chat, avec un S, de l'intériorité, tu vois ? C'est-à-dire que c'est comme si la constitution, ce que j'appelle sans cesse le creusement de l'intériorité, avait été une étape historiquement nécessaire pour transformer le mode de pensée de ce qui nous est donné comme collectif. Il y a eu un moment donné où il a fallu non seulement inventer l'individu, mais le former, il ne suffisait pas de l'inventer, le former, le constituer, pour reconstituer autrement le commun. Et il me semble que toutes les problématiques modernes du commun, que ce soit le commun, la communauté, le communisme, l'être avec, ne sont pas pensables si le collectif est seulement un donné préalable, mais si, en quelque sorte, le collectif n'est pas quelque chose dans lequel des individus entrent. Tu vois ? On voit ça très bien chez le jeune Marx, par exemple. On voit ça très fortement. Il y a une espèce d'entrée dans le collectif, de présence au collectif, tu vois, qui fait que le collectif est, chez Heidegger, c'est très évident, c'est quand même fondamentalement un ensemble, c'est l'affaire de mes milliards de puits, quoi, c'est un ensemble d'intériorité, tu vois ? Et c'est pas le même collectif que lorsque le collectif est donné comme une espèce de, comment dire, de bloc, ou de, tu vois, ou de foule, tu vois, je ne dis pas que c'est ça toujours, mais le collectif même platonicien, enfin pourtant j'ai une passion pour ça, mais le collectif, alors c'est, tout ça n'est pas d'un seul tenant, mais il faut le transformer pour y entrer à nouveau. Sinon, alors, le collectif n'est qu'un tas de sable, si tu veux, tu vois. Or, c'est pas ou c'est plus, moi, je crois, un tas de sable. Et ça l'est plus parce que des gens sont avisés. Je pense d'ailleurs que une part de l'événement irréversible qui s'est produit comme christianisme dans notre culture et dans notre monde, qui n'est pas le fait des seuls chrétiens, hein. Je pense que Lévinas... élabore ça de façon tout à fait prodigieuse, mais je pense que ça peut se trouver aussi ailleurs. Mais, disons, en gros, pour l'indexer, ce qui s'est produit comme christianisme dans notre monde est très lié à ça. C'est-à-dire que, oui, mais comme tu l'as dit très justement, le commun, il faut à nouveau y entrer, il faut s'y présenter. Il faut qu'il se présente à toi et que tu t'y présentes. Et ça... C'est pas du tout pour nier l'historicité des individus ou le caractère a priori du caractère, c'est pour dire que l'expérience, voilà, c'est ce que je veux dire simplement, c'est que l'expérience n'est pas la même. C'est pas simplement le statut ontologique, c'est l'expérience qui n'est pas la même. Quand tu as l'expérience que nous faisons du commun est une expérience que nous faisons, si j'ose dire, comme personne, c'est-à-dire en tant que personne.
me semble. Tu me parles de moi, peut-être dans ton zèle de défendre ce chapitre-là, ce que je comprends bien, puis tu étais. Peut-être, y compris sur Saint-Augustin, tu vas trop loin, si tu veux, parce que d'une autre façon, tu as aussi dans Saint-Augustin une problématique du collectif comme constituant, donc pas uniquement une figure dans laquelle on rentre ou on ne rentre pas, mais constituant. Et on sait quand même que toute la doctrine du péché originel va essayer de traiter ce point-là.
Parce que
si on en reste là, on va pas dans le péché originel, en Saint-Augustin, on ne peut pas. Donc,
bien sûr, c'est parce que c'est pas.
La théorie des deux cités va aussi devoir traiter à sa manière, la manière de Saint-Augustin, tout ça, si tu veux.
Enfin,
c'est pas pour faire de la pédanterie.
Non.
On ne peut pas non plus bâtir, enfin, tu vois,
dans un
diasme très fréquent, très contagieux et qui est très utile, mais ce que je voulais simplement dire, si on veut passer à un temps créateur, il faut bien qu'on admette que l'idée, s'il y a une création, elle est collective, et le collectif est dans une figure plutôt constituante, plutôt qu'un agrégat, donc quelque chose qui est au préalable, enfin qui est avant.
Je suis d'accord.
À propos du chapitre 11, j'ai eu le grand plaisir de voir deux fois la pièce avec Stanislas Roquette, et chaque fois c'est intriguant. Mais une petite question, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce chapitre 11, à savoir que Augustin, il ne s'adresse pas à Dieu dans ce chapitre 11, en tout cas, ce n'est pas évident, il s'adresse quand même à l'homme rationnel, qui est capable d'élaborer dans la logique une pensée. Tout ce qu'il dit sur le passé, le présent et le futur est conditionné par la logique. Alors, est-ce que cette confession, dans ce chapitre 11, ne contient pas un paradoxe, c'est-à-dire de s'adresser à la ratio, la logique, qui en principe est son ennemi, et qui malgré tout lui sert d'arme à ce moment crucial, pour essayer d'enlever autant sa structure mathématique, que malgré tout, nous tous, tout autour de cette table, nous, mathématiciens ou pas, nous sommes obligés d'admettre, parce que nous avons été à l'école, parce que nous voyons la structure mathématique du monde, parce qu'on nous explique que le monde a 14,5 milliards d'années, et par conséquent, nous ne pouvons pas aujourd'hui suivre entièrement ni Augustin, ni Bergson.
En vous écoutant, mon esprit, mon âme, et se feuillette à deux niveaux. Je suis à la fois extrêmement touché de votre auditoire, des gens qui sont ici, certains familiers de cette maison, d'autres très lointains et passagers, beaucoup de gens de grands lecteurs, de compétences très fortes. Ça me touche énormément que nous soyons là autour de ce moment du texte. Et puis en même temps, il y a ce que vous dites, la question que vous posez. Moi, il me semble qu'il y a un paradoxe absolu dans cette adresse. Vous avez raison, elle est infiniment paradoxale. On n'a pas eu le temps de parler de tout, mais il y a d'abord ce paradoxe à qui il s'adresse. Alors, c'est ce que nous avons essayé de traiter théâtralement, d'une façon que vous avez eu la gentillesse à laquelle vous avez eu la gentillesse de vous intéresser, comme ça. Mais, parce que qui est ce tu ? Et la question qu'on se pose en scène tout de suite, quand on dit tu sans arrêt, à longueur de texte, à qui on parle ? Qui est-ce qu'on dit tu ? Nous avions écarté d'emblée l'idée de regarder le ciel. D'abord, parce qu'au théâtre, le ciel, ce sont des cintres, ou c'est un toit. Donc, à qui parler en disant tu ? Alors, je ne vous dis pas ce que nous avons choisi, évidemment, mais c'est une question profonde. Qui est le tu ? Moi, je sais que les confessions sont entrées dans ma vie juste lorsque mon père est mort, de façon très brutale, et par un hasard extrême, j'ai trouvé ce livre dans un placard, une maison qui n'était pas la mienne. Je l'ai ouvert et c'est le tu qui m'a sauté au visage. C'est le tu. Parce que tu, quand on lit ce texte qui est d'une force poétique extrêmement dense, tu, il arrive tout de suite, quoi. Mais qui est-ce? Parce que c'est pour ça que j'ai fait la référence à Montaigne et à Baudelaire. C'est parce que c'est quand même aussi le lecteur. Derrière ce livre, il est quand même aussi adressé au lecteur. C'est une prière, mais ce n'est pas une prière secrète. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas enfermé dans sa chambre, et loin de tous, là où Dieu est proche dans le silence, comme ça, suivant l'injonction christique, il en a fait un livre qu'il a publié. Donc en fait, le tu, c'est aussi le lecteur. Et il y a cette ambivalence permanente qui est que il y a l'adresse, je crois sincèrement, incessante, qui, dans le livre 11 comme dans les autres, qui ne s'interrompt pas une seule ligne, pas un seul instant. L'adresse au transcendant ou à la transcendance, à Dieu, qu'il appelle Dieu, qui est tu, le tu, et en même temps, toujours évidemment, le fait que c'est un livre qui est tout de même reçu par des gens qui sont en train de le lire au moment où on a ce tu, quoi. C'est quand même très, très étonnant. Donc il y a immédiatement cette espèce de feuilletage le livre est sans arrêt fendu, je trouve, sans arrêt. Et ça rejoint peut-être un petit peu la question que vous posez, c'est-à-dire que à la fois il s'adresse, et il le dit par moments de façon très drôle, il lui dit « mais tout ce que je te dis, tu le sais déjà ». Bon, bien sûr, tu le sais, j'ai pas besoin de dire pourquoi. Et à un moment donné, il pose la question, il dit « pourquoi est-ce que je te le dis, puisque tu le sais ?» Voilà. Hein? Mais bon, il y a beaucoup de réponses, hein? Il y a beaucoup de réponses à cette question-là. Mais néanmoins, il y en a une qui est peut-être une petite réponse, mais qui est importante pour nous, puisque nous sommes lecteurs, c'est qu'il le lui dit et qu'il nous le dit en même temps. Et donc, qu'il déploie, en effet, argumentativement, de façon logique, toute une série de procédures, enfin, de voies, des chemins, quoi. Parce que, il me semble, c'est ce que je pensais en vous écoutant, que dans le cas précis de ce livre 11, s'il prend les instruments logiques, c'est toujours pour les conduire au point où ils sont. Ils montrent une forme d'impuissance. C'est-à-dire une forme de dépassement, quelque chose les convoque à se dépasser eux-mêmes, au point extrême de la logique, quoi. Là, on rejoint une question que nous avons abordée avec Jean-Baptiste Brunet aussi, la dernière fois, c'est-à-dire la logique, il la suit très rigoureusement, par moments de façon extrêmement même méticuleuse, et au terme de cette logique, il y a quand même un point où la logique manifeste, sinon une impuissance, en tout cas une espèce de bordure, quoi. Il me semble qu'on en est là, c'est-à-dire une espèce de... Alors c'est paradoxal, je crois que vous avez raison de dire que c'est paradoxal. Vous savez que Kierkegaard, à qui Augustin n'était certainement pas étranger, Kierkegaard définit le paradoxe comme la dignité propre, la probité propre, la piété propre de la pensée, quoi. C'est-à-dire une pensée qui n'est pas paradoxale, mais n'est pas vaine, quoi. Voilà. Oui, Alain.
Oui. Moi, j'ai pas lu 200 fois le livre 11. Je réagis de façon beaucoup plus instruite et puis beaucoup plus spontanée. Pardonnera tout ça. Mais je réagis du coup par écho, par association d'idées, et par exemple sur trois choses, sur trois registres, trois moments qui me sont venus en tête. D'abord, le premier moment serait presque hegélien, c'est-à-dire le plus intérieur qui devient le plus extérieur. Alors tu répondras facilement, j'imagine, et j'imagine assez bien là-dessus la réponse. En quoi n'est-ce pas hegélien? En quoi n'est-ce pas hegélien? C'est-à-dire en quoi il y a une formule de Hegel qui dit l'identité de l'identité et de la non-identité, bon, en quoi n'est-ce pas augustinien, ou en quoi Augustin n'est-il pas déjà quelque part dans la phénoménologie de l'esprit? Bon, ça c'est, je dirais, c'est la question un peu plus. Mais la deuxième, le deuxième écho qui m'est venu en tête, c'est quand tu as parlé, tu as fait référence au silence. Et là, il y a une formule qui m'est venue tout de suite, de Büchner, dans le Lens de Büchner, à la fin du Lens, Lenz au bord de la folie, il est avec le pasteur au Berlin, et il lui dit n'entendez-vous rien, n'entendez-vous pas cette voix effroyable qui retentit sur tout l'horizon et qu'on appelle habituellement le silence. Alors, en allemand, ça passe encore mieux parce que c'est Hörensinnicht. Hörensinnicht, diese entsetzliche Stimme, die den ganzen Horizont schreit und die man gewöhnlich die Stille heißt. Et puis, alors c'est pas la même chose du coup, hein, c'est un autre registre, c'est-à-dire que c'est pas ce moment absolu n'est pas celui du silence, c'est celui du bruit, c'est celui du tumulte. Penser aussi, puisque tu parlais musique, moi je pense très fort à Berg, à Wozzeck, où justement il s'agit du tumulte, et d'un tumulte qui ne s'éteint pas, et qui n'a pas de contraire. Le contraire étant, en quelque sorte, une faute contre l'esprit. Et puis, la troisième, alors tu m'as titillé sur Lévinas plusieurs fois, y a une formule de Lévinas hein, qui est directement empruntée à Augustin, mais qui va ailleurs. Enfin, selon moi, qui va ailleurs. Hein, Lévinas dit, alors, je ne sais pas s'il a écrit, en tout cas, je l'ai souvent entendu dire, il se mettait comme ça, il dit, plus intime que l'intimité, moi je dis, c'est un livre. Plus intime que l'intimité, c'est un livre. C'est peut-être pas la même chose. Alors, en cherchant à donner un écho à cette formule-là, je pense à Proust, qui parlait de Bergson. Ben, Proust, c'est pas la même chose, justement, en quelque sorte, c'est peut-être l'anti. Alors, il y a quelqu'un qui.
Non, vas-y,
oui, effectivement, Proust, chez qui on trouve la conjonction de une minute arrachée à l'ordre du temps a recréé en moi l'homme arraché à l'ordre du temps, et puis un peu de temps à l'état pur. Là, il n'y a pas de compte. L'éternité est elle-même le temps. Il n'y a pas de. Et je pense à une formule. Alors là, je redeviens l'ancien prof de philo que j'ai été. La temporalité nouménale chez Kant. Il y a une expression bizarre chez Kant, qui se trouve dans La fin de toute chose, où il parle d'une temporalité nouménale. Voilà.
Alors,
je ne sais pas comment on peut se débrouiller avec tout ça.
En tout cas, je voulais dire une chose précise. Je voulais dire une chose précise. Parce qu'en en préparant ces séances, qui demandent une préparation assez intensive, bon, moi aussi, il m'arrive évidemment quelque chose en cours de route. Hein, c'est un chemin. Ce chemin nous a conduit, en gros, de deux séances qui étaient beaucoup à l'écoute de Lévinas, et la prochaine sera beaucoup à l'écoute de Hegel. Partant, en gros, du temps et de l'autre, de l'être et de l'autre, passant par le temps, puisque quelqu'un l'avait demandé, et en allant vers l'histoire. Je voudrais dire seulement ceci, mais ça me fait penser à quelque chose que je voulais répondre à François et sur lequel je n'ai pas répondu sur le début de ta question. Je voulais dire ceci. Dans l'accès à la transcendance, que j'ai, en relisant beaucoup de Lévinas ces derniers mois, avec une émotion et un emportement dont j'ai essayé de témoigner aussi, il y a quand même, je suis arrivé à un point où dans l'affection immense que je porte à ce texte, je n'ai pas rencontré Lévinas, à la différence de ce qui est ton cas, j'ai tout de même senti un point, disons, d'interrogation, et peut-être d'écart, en tout cas où les routes peut-être divergent un peu. C'est pour ça que j'avais envie d'aller à une séance vers Hegel, vers l'histoire. Et ce point, je le sens à nouveau avec Augustin, différemment, mais je le sens à nouveau avec Augustin, et c'est une chose qui rejoint le début de la question de François. C'est que je n'arrive pas à consentir à la transcendance comme passé. Non pas comme passivité, mais comme passé. Or, il m'a semblé sentir cela, d'une part chez Lévinas, à un point extrême du texte, en gros vers la fin de Notre Banquette, hein, les pages finales de Notre Banquette, Et je le sens à nouveau dans la question de la création. Et là, tu as raison, François. C'est que si la création a eu lieu, le dépôt qu'elle a laissé en nous est un passé. Et ça, Lévinas n'est pas loin de le dire. Un passé plus passé que tout passé, etc. Mais il y a au fond de nous quelque chose comme une transcendance qui est un passé. Or, je n'y consens pas. Tu vois ? Et là, nous nous rejoignons sans doute. Et c'est là que le livre d'André Gounel, dont tu pas le livre, mais tu parlais de l'homme tout à l'heure, quand nous conversions tout à l'heure, a été si important pour moi, le livre sur le process, si tu veux, sur le... tente de saisir, alors dans une lignée philosophique qu'on peut discuter, c'est Whitehead, c'est tout ça, bon voilà, qui est immense, mais qu'on peut aussi discuter beaucoup, mais qui fait aussi le fond pour moi de mon hegelianisme à moi, et je vais donc répondre à ta question là-dessus. Je n'arrive pas à consentir à ce que la transcendance soit au passé. Voilà. Que le fond du fond de la transcendance soit au passé, ou soit un passé. Et pour moi, elle est un devenir. Et donc, en un certain sens, aussi un avenir, si tu veux.
Pardon, si je peux t'interférer là-dessus, à propos de Lévinas. Je pense à ce texte de Difficile Liberté, la lecture talmudique dans Difficile Liberté, où il fait la différence entre... le temps messianique effectivement est au passé et puis le bon d'avenir que nul œil n'a jamais vu.
Voilà. Mais alors je dirais moi personnellement pour dire ça, pour essayer de dire quelque chose qui m'importe beaucoup, qui est que là sur ce point précis il y a un devenir de la transcendance, et je sens chez Augustin aussi la création comme dépôt. C'est même presque, c'est peut-être ma manière de faire, pourquoi j'ai voulu aller tellement à fond et creuser au fond tellement ça, et au fond m'y livrer, ou m'y adonner un peu en un certain sens. Disons, le croire, lui, quand il le dit, il me parle comme ça sans arrêt, alors je lui dis, bon, ben, on y va, je vais avec toi, tu vois, où est-ce que tu nous emmènes, quoi, c'est ça le truc, c'est-à-dire, j'ai pas envie d'objecter en disant, ah, mais j'ai envie d'y aller, quoi. Et c'est vrai qu'il vous emmène, Augustin, surtout après plusieurs années. Donc, alors, à ce point-là, je me suis dit, alors, Bergson, parce que Bergson, c'est quand même l'affaire du nouveau, essentiellement, pas seulement, mais disons, il y a quelque chose. Et alors, Hegel. Mais alors, chez Hegel, je suis un peu plus chez moi, et donc, on y regardera de plus près le mois prochain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il en est de cette transcendance comme devenir ? Oui, Monique. Michel, excuse-moi.
Je parle de culture et je me perds un peu dans ce que vous dites, mais on ne peut pas, tu ne peux pas penser la transcendance comme le passé si tu penses l'appel. Or, tu es quelqu'un qui rappelle toujours l'appel.
Oui, bien sûr.
Or, dans l'appel, tu as obligatoirement un devenir. Mmh. Tu as une sorte de permanence, mais qui se renouvelle et qui renaît. Mmh. On ne peut pas penser la transcendance comme passé si tu penses l'appel.
Tu peux la penser comme retour. Alors, il y a cette chose sublime de Lévinas lorsqu'il oppose dans sa vision à lui, dans la phrase de l'autre, Abraham à Ulysse, c'est-à-dire il dit Ulysse c'est la culture du retour et Abraham c'est la culture du je m'en vais là où je ne suis jamais allé. Voilà. Il dit donc si tu veux, il y a dans le geste abrahamique, c'est quelque chose qui est le départ sans retour, le départ pour ne pas revenir. Mais il y a des interprétations, et chez Lévinas aussi, du départ comme retour. Des interprétations odysséennes, si on veut, de la transcendance. C'est-à-dire, je reviens. Et quand vous voyez toutes les nostalgies hein, dont nous sommes envahis, c'est-à-dire du salut comme retour. Salut comme retour. Retour à ce que vous voulez, mais retour. Il y en a beaucoup, il y en a eu tellement, en particulier ces dernières décennies, c'est assez incongru d'aller chercher aujourd'hui une... Mais enfin, il faut quand même passer d'abord par là. Moi, je trouve qu'il ne peut pas se passer de passer par là.
Oui, mais c'est le temps christique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que voilà, c'est à la fois l'alpha et l'oméga, donc la genèse, la création, elle est dans le passé, certes, mais elle est toujours... convoqué dans le présent, et c'est encore un temps eschatologique. C'est ce que célèbre un petit peu, j'allais dire, mièvrement le geste de la communion. C'est le banquet messianique, c'est donc le banquet de la vie future. Donc c'est voilà, le passé et le présent sont convoqués. Donc on sait qu'on va vers la mort, mais on n'est pas pour la mort, comme disait le monsieur à propos de la résurrection. Et donc le temps n'est pas vécu pareil, ce temps ordinaire. Je pense que saint Augustin est tout imprégné de ça. Et puis cette idée d'individu et de collectif, je pense que là aussi c'est compliqué, parce que dans l'anthropologie particulièrement paulinienne, l'être nouveau, c'est à la fois chaque personne qui creuse son puits peut-être, mais c'est aussi le collectif en fait, dont Christ est la tête. Et donc ce creusage de puits, c'est aussi collectif. C'est aussi voilà, peut-être cette réunion où on creuse un puits ensemble aussi, et chacun pour soi.
Quand vous êtes deux ou trois, quand vous êtes deux ou trois, il dit...
Oui, mais voilà, exactement. Le royaume de Dieu est à la fois au-dedans de vous, donc dans ce puits, et au milieu de vous. Il y a cette ambiguïté dans le texte même grec, et c'est les deux à la fois. Donc on est toujours un peu dans cette ambiguïté, ambivalence, qui est particulièrement féconde.
On s'est donné un peu comme règle de,
voilà, de terminer
à peu près l'heure. On a quelques infos à vous
donner. Quelques petites annonces. Donc vous avez là une petite feuille A6 qui est posée avec un petit dessin donc de Saint-Augustin au pied de l'échelle et d'un escalier qui monte. Avec un spectacle, donc j'espère qu'il y aura des places, non ? Mardi prochain. Donc,
est-ce que vous pouvez redonner l'adresse ?
Alors elle est sur la petite feuille, voilà. Elle est sur la petite feuille.
Qui est là à l'entrée.
C'est le théâtre de l'opprimé dans le 12e. Hein.
C'est un tout petit théâtre, hein, c'est un petit théâtre. C'est un spectacle qui a déjà été joué à Chaillot, où vous étiez, à Genève, où le directeur de la Comédie de Genève, ici présent d'ailleurs, et que je salue, nous avait invité longuement. On a joué trois longues semaines à Genève. Donc c'était. Mais bon, là, on joue pour une soirée unique dans un tout petit théâtre, dans un tout petit lieu, invité par une micro-compagnie.
Et c'est complètement par hasard que ça se joue en fait la semaine prochaine, parce qu'on avait prévu, sans savoir qu'il y avait ce spectacle, cette séance sur le temps. Voilà. Alors en février, c'est donc une séance sur l'histoire et la question de la révélation. Donc c'est Denis qui va encore nous travailler durement, piocher voilà, ces beaux textes qui sont d'ailleurs à disposition sur ton site. Oui, donc grand merci de pouvoir le relire et méditer ces textes, réfléchir dessus. Et puis en mars, c'est une nouvelle qui date d'aujourd'hui finalement. Voilà. Et une très très belle perspective donc pour en finir avec le sacré. Donc pudiquement avec Denis, on a mis un point d'interrogation après. Mais c'est magnifique, voilà, je pense. On peut lire le début sur Google Books, comme on dit en français. Si vous l'interrogez avec cette phrase, Valère Novarina, qui est un immense auteur, philosophe, artiste aussi.
Alors donc deux choses, si tu me permets de compléter. Donc d'une part, Valère Novarina sera des nôtres. Il ne fera pas un exposé comme a fait Jean-Baptiste Brenet. Il sera là, on poursuit un dialogue que l'on mène depuis des années. Et on avait déjà fait d'autres choses, y compris en milieu protestant, puisqu'on avait joué un texte de lui à l'invitation de Béatrice Ollard-Beau à l'église de Plaisance. Et puis, bon, Valère, qui est de formation catholique et dont l'épouse est juive, et qui est quelqu'un d'extrêmement complexe et d'une richesse extrême, mais qui est en dialogue très intense avec la théologie, avait envie de venir d'être des nôtres ce soir. Et par hasard, moi, en même temps, simultanément, j'avais envie qu'on l'invite à dialoguer avec nous. Donc, il sera là le 7 mars pour ce dialogue autour de ce texte que je vais faire circuler d'une façon ou d'une autre. On va mettre sur les sites, etc., le texte pour en finir avec le sacré. En effet, où il y a un écho lévinassien très fort. Nous, on a mis un point d'interrogation, hein, parce qu'on a trouvé que c'était quand même un peu brutal. C'est pas Valère qui le met. Valère, c'est pour en finir avec le sacré, carrément, quoi. Voilà. Et c'est un court texte d'une vingtaine de courtes pages qu'on fera circuler d'une façon ou d'une autre. Et d'autre part, je voulais dire aussi, puisque tu as eu la gentillesse de signaler, puisque vous êtes nombreux à me le demander, que les textes de ces exposés sont accessibles de façon complètement libre et ouverte. C'est pourquoi d'ailleurs je les écris, hein, parce que ça permet de les faire circuler. Et je sais qu'ils circulent de plusieurs façons. Ici, ils sont en vidéo grâce à Soyoun Pernod qui est là, qui le fait très amicalement. Ils sont en vidéo, discussion comprise maintenant, puisque ça a été demandé par certains d'entre vous. Ils sont en vidéo sur le site de l'oratoire, lequel a la gentillesse de donner, rendre accessibles aussi les textes lorsqu'on les... mais et surtout l'audio. Et sur mon site, il y a les textes qui sont publiés, les textes écrits, et que vous pouvez trouver sans aucune difficulté, et la vidéo aussi. Les vidéos de cette séance et des trois passées, et j'espère de celles qui viennent. Donc tout ceci est fait pour circuler, pour être mis en discussion, et donc voilà. Mais merci beaucoup à vous tous d'être là et de participer avec nous.